lié entre deux, ce qu'est la sensation et chaque sens en particulier, et avant d'aborder l'étude des autres puissances internes, à savoir l'imagination et surtout l'intellect, Aristote en vient à étudier les rapports et les relations entre les sens externes et à examiner s'il y a possibilité d'une synthèse proprement au niveau du sensible. Après une analyse des deux premiers chapitres du livre 3, nous soulèverons un certain nombre de questions en vue de mieux comprendre ce que l'on peut entendre en définitive par sens commun. Aristote, qui vient de terminer le deuxième livre sur la sensation, se pose en abordant le troisième livre la question du nombre des sens quant à la capacité du vivant parfait à percevoir tous les sensibles. Si de fait les sens sont pour la connaissance sensible, il faut alors qu'aucune qualité sensible ne puisse nous échapper et donc qu'aucun organe sensoriel nous manque. Pour cela, Aristote va se servir de l'expérience, de l'analyse et d'une sorte de méthode réductive. Toutes les qualités perçues par contact direct, le toucher et le goût, qui est une sorte de toucher, nous les rendent sensibles. Toutes les qualités perçues non par contact direct, seuls les milieux constitués de corps simples, l'air et l'eau, peuvent les rendre présents. Qu'il s'agisse de plusieurs sensibles génériquement différents dans un même milieu ou d'un même sensible dans plusieurs milieux. Ensuite, Aristote se servira pour son argumentation des quatre éléments, dont deux seulement constituent principalement les organes sensoriels, à savoir l'air et l'eau. Le feu et la terre n'étant présents qu'en tant que constituants fondamentaux. Les animaux parfaits possèdent les cinq sens, même la taupe qui n'a pourtant pas besoin de ses yeux, et montre qu'aucun sens ne saurait nous manquer, sous réserve qu'il n'existe pas d'autre corps simple ni de qualité étrangère au corps de ce monde. On peut souligner qu'en tant qu'aspect fondamental de la sensation, le toucher implique les quatre éléments. Une fois établi que les cinq sens externes permettent de percevoir toutes les qualités sensibles, apparaît le problème des sensibles communs qui implique la coopération des sens entre eux et celui de l'unité de la sensation par rapport à l'objet senti. Aristote se demande s'il n'est pas nécessaire de poser un sixième sens dont le sensible propre seraient les sensibles communs. Mais les sensibles communs sont perçus par un mouvement, et il est manifestement impossible que l'une quelconque de ces qualités soit l'objet d'un organe particulier, ni donc d'un sens spécifique. Le philosophe va procéder ici par mode d'impossibilité. Si le sensible commun était l'objet d'un sens spécifique, il en serait comme de notre perception effective du doux par la vue, qui est accidentelle, et donc il n'y aurait aucune perception des sensibles communs, si ce n'est par accident, comme le fils de Cléon que nous percevons non pas comme le fils de Cléon, mais comme blanc, et cet objet blanc, c'est par accident qu'il se trouve être fils de Cléon. Aristote pourra alors affirmer que les sensibles communs nous sont donnés dans une perception commune et non par accident, et qu'il n'y a pas pour eux un sens particulier. Si les divers sens perçoivent les sensibles propres les uns des autres, c'est par accident et non pas comme sens spéciaux, mais comme un, lorsque les perceptions de plusieurs sens se rencontrent sur le même objet. Mais la connaissance de l'objet qui est à l'origine de l'unité de l'acte de sensation, en tant que support des sensibles, relève de l'intelligence dans une connaissance qualitative et non pas sensible, d'où l'erreur possible au niveau de la sensation quant à ce qu'est l'objet. En voyant du jaune, on croit que c'est de la bile. Ayant donc établi qu'il n'y a pas d'autre sens externe que les cinq étudiés, ni de sens spécifique dont l'objet serait le sensible commun, le philosophe peut se demander le pourquoi de cette multiplicité des sens. Cette multiplicité nous sert à mieux discerner les sensibles communs qui, sinon, nous échapperaient plus facilement, en ce sens que nous ne pourrions plus les distinguer des sensibles propres auxquels ils seraient attachés en permanence dans l'acte de perception. Aristote va nous montrer enfin que cette multiplicité des sens nous manifeste que le sensible commun sont des sensibles par soi. Puisque plusieurs sensibles propres contiennent les sensibles communs, chacun de ceux-ci est une qualité spécifique. On peut souligner ici aussi que la multiplicité des sens est le fondement même du caractère analogique de la connaissance. La constatation du caractère conscient de la sensation, de la capacité d'en apprécier l'harmonie et surtout de celle de discerner entre des sensibles génériquement différents, va soulever le problème de l'existence d'une puissance judicative au niveau proprement sensible que l'on dénomme habituellement sens commun. À partir de l'analyse de l'acte du sensible et du sens, Aristote montre l'unité de l'acte du sensible et du sens qui réside dans le sens. D'où il en conclut que le sens est une sorte de proportion, ce à quoi il rattache la capacité de discerner l'harmonie des qualités sensibles, cause du plaisir de sentir. D'où vient la conscience du fait de sentir? Puisque nous sentons que nous voyons, il faut bien que le sujet sente qu'il voit par un sens qui a la capacité de percevoir à la fois la vision et le visible. Ce qui veut dire que deux sens portent sur le même sensible, ou alors que le même sens se percevra lui-même. Si c'est un autre sens qui perçoit la vision, on peut remonter ainsi à l'infini, à moins que l'un quelconque de ces sens se perçoive lui-même. Auquel cas, c'est au premier de ces sens qu'il faut reconnaître ce pouvoir. Aristote prend l'exemple de la vue et soulève une difficulté. Sentir par la vue, c'est voir, et l'objet de la vue, c'est la couleur ou l'objet coloré. Si l'on voit le principe de la vision, c'est qu'il est coloré, ce qui n'est évidemment pas possible absolument. Aristote note ici que simplement au niveau du langage, l'expression « sentir par la vue » ne comporte pas qu'une seule et même acception. Lorsque nous ne voyons pas, c'est par la vue que nous distinguons l'obscurité de la lumière. Ceci nous montre bien que percevoir par la vue n'implique pas obligatoirement percevoir une couleur. Mais de toute façon, le principe même de la vision est d'une certaine manière coloré, car chaque organe sensible reçoit la qualité sensible sans la matière. C'est pourquoi, après même la disparition des sensibles, sensation et image demeurent dans les organes sensoriels. Ceci amène le philosophe à aborder l'analyse de l'acte du sensible et de celui du sens. Bien que leur être ne soit pas le même, c'est-à-dire bien qu'il y ait une quidité différente, l'acte du sensible et celui du sens est le même et unique. Le philosophe prend l'exemple du son en acte et de l'ouïe en acte qui, de fait, se produisent simultanément. On dira qu'il y a d'une part audition et d'autre part résonance. C'est tout le rapport entre le sensible et le sens qui intervient ici. Si le mouvement, l'action, la passion résident dans ce qui est agi, de toute nécessité, le son et l'ouïe en acte résident dans l'ouïe en puissance. L'acte de l'élément actif et moteur se produit dans le patient et le moteur n'est pas nécessairement mu. Ce qui est vrai de l'acte du son et de l'ouïe est vrai aussi de l'acte des autres sens et des autres sensibles. Tout comme l'action et la passion résident dans le patient, ainsi l'acte du sensible et celui du sens résident dans le sens. Ainsi, puisque l'acte du sens et celui du sensible ne font qu'un, il y aura nécessairement disparition ou persistance simultanée du sens et du sensible en acte. Nécessité qui ne s'impose pas pour ces termes pris au sens de puissance. Aristote réfute ici la position des premiers physiologues qui croyaient à tort qu'il n'existait aucun sensible hors du sens. Quand on prend le sens et le sensible en acte, leur dire était juste, mais pas quand ils sont pris en puissance. Aristote nous fait remarquer ensuite qu'à cause de l'identité de l'acte du sens et du sensible, le sens est une sorte de proportion capable de juger l'harmonie. Mais l'organe étant limité par la matière, la sensation excessive cause la détérioration de l'organe. Moyennant quoi, les qualités sensibles peuvent causer du plaisir lorsqu'elles sont amenées à une certaine proportion et le mixte est plus capable d'harmonie que le simple. Dans une seconde partie, Aristote poursuit en observant la capacité qu'a chaque sens de juger du sensible qu'il a pour l'objet et surtout du rapport de chaque sensible avec chacun des autres. Ceci lui fait poser un principe judicatif 1 au niveau même de la connaissance sensible, principe indivisible qui juge dans un temps indivisible. Ce qui l'entraîne à évoquer brièvement le problème de l'organe d'un tel sens qui aurait rapport au toucher, fondement de la sensation. Ensuite, le philosophe conclut en cherchant le comment de ce sens par rapport aux nécessités d'unité et de multiplicité qu'il implique. Il y apporte une première réponse en se servant d'une analogie avec le point qui peut être considéré comme un ou deux en tant que limite. Chaque sens s'exerce donc sur le sensible qui est son objet propre, réside dans l'organe sensoriel et juge des différences du sensible qu'il a pour objet. Mais encore, puisque nous jugeons aussi de chaque sensible par rapport à chacun des autres, c'est par un certain principe que nous sentons leurs différences. C'est l'expérience qui montre donc cette capacité de juger dans un acte de la sensation deux qualités sensibles différentes par le genre et simultanées dans le temps. Il est nécessaire que ce soit par un sens puisqu'il s'agit de sensibles. Ce sens doit aussi être nécessairement un, car il n'est pas possible de juger par des sens différents, deux sensibles différents. C'est un seul sens qui doit connaître l'un et l'autre sensible, et un seul principe qui doit énoncer leurs différences. Que ce sens ne puisse non plus juger des sensibles séparés à des moments séparés, Aristote va nous le montrer par une analogie avec la connaissance, du fait de sa lucidité plus grande pour nous. De même que c'est le même principe qui énonce la différence du bon et du mauvais, de même, quand le sens commun énonce l'un diffère, il dit, dans le même temps, que l'autre diffère aussi, et alors le camp n'est pas accidentel. Cette question du temps est très importante dans l'actuation de la sensation, car le principe qui juge des sensibles énonce actuellement un fait actuel. Ce principe indivisible juge en un temps indivisible. Mais si c'est un sens, quel en serait l'organe? Aristote en touche un mot en disant « Il est évident aussi que la chair n'est pas l'organe sensoriel immédiat, car ce serait alors nécessairement par contact avec le sensible que le sens judicatif devrait juger. » Pour saisir cette affirmation, il faut comprendre que la chair est liée au sens le plus fondamental, celui du toucher, et que le sens commun est quelque chose comme le fondement et l'aboutissement ultime des sens. En outre, il y a un autre problème, celui du caractère divisible et indivisible de ce sens, et donc de l'unité et de la multiplicité. En effet, il est impossible qu'une même chose soit mue en même temps de mouvements contraires en tant qu'elle est indivisible et dans un temps indivisible. La seule solution possible semblerait être que le principe judicatif soit numériquement un et inséparable dans le temps et à la fois partagé dans son être. Mais il y a là une impossibilité. On ne peut être les contraires qu'en puissance et non pas par l'être. Le sens, quand il juge, est en acte. Aristote y répond par une analogie avec le point. Le sens commun, en tant qu'il est fondement des sensations, serait le point de départ de la capacité de sentir de chaque sensible et l'aboutissement des sensations génériquement différentes. En tant que tel, il juge la limite comme deux. Il juge deux choses et deux choses séparées par une faculté en quelque sorte séparée. Mais en tant qu'il traite la limite comme une, il juge deux choses en même temps. Avant de conclure cette étude, il paraît important de souligner l'intérêt proprement philosophique de ces deux premiers chapitres du livre 3, qui achèvent en quelque sorte l'étude de la connaissance sensible. Jusque-là, Aristote a cherché à savoir ce qu'est la sensation. Une connaissance sensible spécifiée par un objet, le sensible, et qui implique pour son exercice un organe propre permettant de poser une puissance pour chacune des cinq sensations données par l'expérience. Après avoir étudié pour elle-même chacune de ces sensations, qui sont comme les éléments fondamentaux et irréductibles de la connaissance sensible, le philosophe qui veut aboutir à une intelligibilité plus profonde de l'homme en tant que vivant ne peut pas ne pas se poser la question de la capacité d'immanence propre à la connaissance sensible. Dans quelle mesure la complexité et la multiplicité des sensations, qui résultent d'une part de la multiplicité des sens et d'autre part de l'existence des sensibles communs, peuvent-elles être assurées à un niveau proprement sensible par une unité de la connaissance sensible qui implique nécessairement une auto-lucidité de la sensation et de façon plus radicale, une véritable capacité judicative au niveau sensible. La complexité et la richesse de l'expérience sensible va donc pousser Aristote dans la recherche d'une compréhension la plus ultime possible de la connaissance sensible. Compte tenu de la difficulté inhérente à l'étude de cette connaissance pour elle-même, et ceci dans le but de discerner tout ce qui lui revient en propre, afin de la distinguer de la connaissance imaginative et intellectuelle avec laquelle elle est toujours associée dans son exercice habituel. Ainsi, au-delà de la diversité propre des cinq sensations irréductibles, se pose le problème du lien entre les diverses sensations et donc de l'existence d'un noyau commun au niveau sensible, permettant de juger en même temps des sensibles génériquement différents. Il est normal qu'Aristote, au seuil de cette étude des rapports des divers sens entre eux, se pose le problème tout à fait fondamental du nombre des sens externes. C'est significatif de sa méthode. Il dépasse la simple constatation de l'existence des cinq sens et se pose la question suivante. Peut-il y avoir d'autres sens? C'est une réflexion critique sur le rôle des divers sens par rapport au vivant lui-même qui permet d'affirmer qu'aucun sens ne saurait nous manquer, puisque toutes les sensations possibles sont éprouvées. La cause matérielle, voire la condition sine qua non, est établie. Nos divers sens nous permettent, avec une certaine redondance, semble-t-il, pour la taupe, de percevoir toutes les qualités sensibles de ce monde. C'est l'existence des sensibles communs qui montre la possibilité de passer d'une sensation à l'autre, donc des relations entre les divers sens. Quel est cet au-delà de la diversité des sensations? Nous touchons là radicalement le problème de l'analogie de la connaissance. Il faut cependant souligner que cette diversité sensible n'implique pas par elle-même une unité, comme ce serait le cas au niveau de l'être. Mais il faut aussi rendre compte de l'auto-lucidité de la connaissance sensible. D'où vient la conscience que j'ai, que je sens, la capacité d'apprécier l'harmonie d'une sensation et, en définitive, de juger de la différence des sensibles génériquement différents au cours d'une opération une dans le temps. N'est-ce pas le problème de l'existence d'une capacité judicative au niveau purement sensible qui est posé ? Capacité qui rendrait compte de l'auto-lucidité de ce niveau fondamental de la connaissance. Ce problème met en pleine lumière la difficulté d'une étude critique de la connaissance sensible qui, dans son exercice, n'est pratiquement jamais séparée de l'imagination et de la connaissance intellectuelle. Aristote ne se sert-il d'ailleurs pas de l'analogie de la capacité de discerner au niveau intellectuel, beaucoup plus lucide et consciente, pour éclairer cette recherche obscure quant à notre expérience d'une puissance judicative purement sensible? Que représente donc cette auto-lucidité? Est-ce simplement le fait que les cinq sens sont prolongés par l'imagination et par l'intelligence, ou bien y a-t-il vraiment au niveau du jugement sensible une nouvelle puissance qui rendrait compte à la fois de l'unité et de la diversité des sensations? Un simple exercice commun des sensations suffit-il pour poser une nouvelle faculté, ou bien ne faut-il pas nécessairement un nouvel objet? Cette unité semble bien pourtant se situer spécifiquement au niveau sensible et non pas à celui d'une représentation qui relèverait de l'imagination. Il s'agit bien en effet de juger de sensibles entre eux. Il semble donc bien qu'il faille une dynamisme sensible qui fasse l'unité. Mais que serait alors cette puissance qui doit être à la fois comme le fondement de la sensation et, en même temps, l'achèvement de la connaissance sensible, en lui donnant son unité dans un jugement et une auto-lucidité? Elle envelopperait en quelque sorte toute la connaissance sensible. Mais quel en serait son organe, puisqu'il s'agit d'une puissance sensible? Quel est le rapport de cette puissance avec les cinq puissances déjà découvertes par chaque sens externe? La fin du chapitre 2 montre qu'Aristote n'a pas, dans le De Anima, résolu de façon définitive cette question, puisqu'il se sert de l'analogie métaphorique du point pour faire comprendre le problème du divisible et de l'indivisible dans un temps indivisible. Dans le traité du sommeil et de la veille, Aristote n'attribue plus au sens lui-même la conscience de la sensation, mais à une dynamis qui accompagnerait tous les sens, pouvant saisir l'intentionnalité du sensible de chaque sens. Bien plus, la capacité de juger des sensibles génériquement différents se ferait grâce à une certaine partie de l'âme commune à tous les organes. Car la sensation est alors une et l'organe dominant est un, l'essence de chaque espèce de sensation étant différente. Il ajoute que le sens commun est surtout simultané au toucher. Ce dernier est en effet séparé de tous les autres, tandis que les autres sont inséparables de celui-là. Par suite, il est donc évident que la veille et le sommeil sont les affections de ce sens. Et plus loin, il dit encore, quand le sens qui domine tous les autres et auquel tous les autres aboutissent vient à éprouver quelques modifications, nécessairement aussi tous les sens qui restent l'éprouvent. Tandis que si l'un d'eux est dans l'impuissance, il n'est pas nécessaire que le sens commun soit impuissant. Dans son traité sur la sensation et le sensible, Aristote précise encore, à propos de l'unité de la sensation des deux sensibles différents, « Dans l'âme, la partie qui sent quelque chose est une. Mais à quelle unité le résultat répond-il donc ? Car aucune des choses senties n'est une. Il est donc nécessaire qu'il y ait dans l'âme quelque unité par laquelle elles perçoivent tout. Mais elles sentent ce qui est d'un autre genre par un autre organe. Et encore, il faut donc supposer au sujet de l'âme que ce qui perçoit toutes les sensations est numériquement identique et un, et que cependant cette faculté est autre par sa manière d'être, ici pour les choses d'un genre différent, là pour les choses d'une espèce différente. Par suite, l'âme perçoit simultanément des choses par une seule et même faculté, mais le rapport n'est pas identique. Sans qu'il soit possible de trancher de façon définitive ce que représente le sens commun, n'est-ce pas la puissance sensitive même de l'âme, dans son unité, source et terme des sens externes ayant chacun leur spécificité. Son objet serait les sensibles par soi. Que représente exactement le rapport de cette puissance avec le toucher en tant que fondement des sensations? C'est tout le problème de l'organe de cette faculté qui, peut-être, implique, en plus des organes sensoriels, des connexions entre les différents noyaux au niveau du système nerveux. C'est tout le problème du pose.
Est-ce qu'il y a des questions à poser ?
Je n'ai pas bien saisi quel était l'objet du sens commun.
Le sensible par soi.
Quelle serait la différence là, par rapport à la sensation du tout le sensible propre?
Le sensible propre est aussi l'objet du sens commun, puisque c'est un sensible par soi. Le sensible commun serait l'unité de la... Chacun des cinq sens serait une modalité dans l'exercice du sensible commun.
Puisqu'il y a dualité, il faut remonter à une unité. Puisque le sensible se divise. peut se comprendre que si elle est ramenée à l'unité. Tu crois?
Est-ce qu'il y aurait une puissance qui ferait la... Est-ce qu'il y aurait une puissance qui ferait la... l'unité?
Puissance distincte.
Du sensible commun, du sens commun et du...
Et des autres sensibles. Des autres.
Non, parce que le sens commun est cette unité.
Enfin, c'est justement ça que j'arrive à bien saisir. Est-ce que le sens commun, c'est l'unité des différents sens? Ou est-ce qu'il y aurait une unité, je dirais, qui serait au-delà du sens commun et des sens propres?
Ces cinq puissances de l'âme.
Comme
les cinq sens, sont cinq puissances.
Sont cinq puissances diverses.
À quel rapport du sens commun avec les cinq puissances?
Il y a un rapport avec chacune, avec chacun.
Parfait. Enfin, c'est métaphorique, mais comment les situer dans l'âme?
Ah oui, c'est la puissance de la puissance. Je crois.
Comme.
C'est la puissance de la puissance, parce que c'est pas au sens rigoureux, on peut pas séparer le sens commun des autres sens. On peut pas le séparer. Comme ça.
Est-ce qu'on pourrait pas dire que la puissance de l'âme qui sort, au fond, serait présente à tous les organes différents, d'une certaine façon?
Oui.
Fait que.
Lui donne,
oui, c'est ce qui donne l'essence.
Oui.
Si c'est pas l'unité de l'âme qui sent, font aller.
Oui, mais c'est l'âme à travers une faculté. Oui. avoir la une dunamis.
Elle n'est pas matérielle, cette dunamis.
Non, elle est présente dans les diverses sensations, dans les diverses autres facultés. C'est pour ça que je dis c'est une faculté, d'une certaine manière.
Pourquoi on, à partir des cinq opérations sensibles, cinq sensations propres, on pose cinq puissances, alors que les trois opérations intellectuelles, il y a une seule puissance?
Ah, ça c'est parce qu'on est en face de quelque chose de plus élevé, qui unifie davantage.
Mais pourquoi on ne pose pas trois puissances intellectuelles?
Parce qu'ils ont tous un objet commun. Il y a quelque chose d'analogue à ça.
Oui, justement.
Il y a quelque chose d'analogue, vous voyez. Mais la diversité est affirmée avant l'unité. Alors, ça commence par montrer la diversité, parce que c'est la première chose qu'on saisit. Vous voyez. Et dans cette diversité, il y a une certaine unité. Ça ne peut pas être autrement, il y a une unité dans cette diversité.
Oui. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est le sens le plus parfait qui fait l'unité des autres sens?
Non.
Je pense par exemple à la vue, puisque l'unité des sens, elle forme une espèce d'image. Alors, la vue justement permet de former une image, et donc quand on apprend une réalité par les sens, donc on se formerait une image par la vue, et tout ce qui apporte
l'image, c'est déjà l'imagination. Votre vue ne fait pas d'image, il voit les sensibles propres, la couleur. L'image que vous faites, ce n'est plus la sensation, c'était pas déjà l'image, l'imagination.
Aussi l'image au niveau du son.
Qu'est-ce qu'il y a ?
On peut avoir une image du son aussi.
Oui, par l'imagination. C'est l'imagination, c'est pas le son. Oui.
Qu'est-ce qu'on va déjà faire partie des
sensibles communs.
Les sensibles communs ?
Oui.
Est-ce que c'est déjà. Quel est le rapport entre la figura déjà et l'image ? C'est assez proche.
C'est assez proche. C'est quand même distinct. L'image est toujours une synthèse.
La figura est dans la réalité.
Oui. L'image, elle est construite autour de nous. La possédant l'image. C'est une reproduction.
Et pourquoi est-ce que cette synthèse a du sens commun ne serait pas au niveau de l'imagination?
Pourquoi?
Pourquoi est-ce que cette synthèse du sens commun ne serait pas au niveau de l'imagination?
Parce que l'imagination construit quelque chose. Alors que le sens commun ne construit pas, il est comme les autres sensations. Les autres sensations ont une passivité tout à fait particulière, le pascade des sensations qui lie directement au sensible. Tandis que l'imagination construit quelque chose. Elle est constructive, l'imagination. Et en ce sens-là, elle est subjective.
Elle ne construit pas le sens commun.
Non, le sens commun ne construit rien.
Il juge.
Il discerne, c'est ça. C'est ce qu'il disait tout le temps, il discerne.
C'est l'intelligence.
Non. C'est pas l'intelligence, puisque l'intelligence se juge autrement. Elle juge par rapport à l'être. Donc là, c'est un jugement à l'intérieur du sensible.
Est-ce qu'on peut parler alors d'autolucidité ou de conscience au niveau du sensible commun?
Oui, oui. Le sensible commun a une conscience. C'est lui qui a la conscience des rapports entre les différences. C'est pour ça que c'est au fond. Espèce de sensation, vous voyez.
Qu'est-ce que le sens commun juge exactement?
Qu'est-ce qu'il y a?
Est-ce qu'il juge que le sens
il juge
les différentes qualités sensibles par rapport à la même identité?
Il juge les rapports entre le sensible propre et le sensible commun. C'est déjà pas si mal. Et il juge à l'intérieur des diverses sensibles propres. Certaines relations qui s'établissent.
Est-ce qu'il y a pas automatiquement une intervention de l'intelligence pour...
C'est là le point délicat. C'est là le point délicat. Et je crois pas. Sûrement pour Aristote, non. Aristote fait une analyse. Il essaie d'analyser là où on est obligé, inductivement, de poser une puissance en fonction d'un objet particulier qui est connu. Vous êtes obligé de poser. supposer une puissance distincte de la vue par rapport au toucher, parce qu'il y a un sensible distinct. Vous êtes obligé de poser un sens commun, parce qu'il y a à l'intérieur du sensible commun quelque chose de particulier, une harmonie, une unité, qui est au niveau sensible, qui n'est pas au niveau intelligible.
Il n'y a pas d'organe.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Il n'y a pas d'organe.
Ah, c'est là où c'est très délicat. Il n'y a pas d'organe, il y a sûrement un organe. Vous pouvez être autrement, puisque c'est sensible.
Mais est-ce qu'on peut, justement, l'organe qui est le cerveau, notamment, enfin, quand on fait des petites opérations...
Petites opérations particulières.
Non, mais... Pour les gens, pour les animaux, on voit très bien qu'à ce moment-là, il y a des connexions.
Oui, il y a des connexions, c'est pour ça que...
Les différents sens, ils les ont, mais ils ne voient plus du tout les rapports.
Ils voient les rapports. Il n'y a plus d'unité. Alors qu'il y a une synthèse harmonieuse au niveau des sensations. Une synthèse qui est propre de la sensation. C'est que Aristote ne détecte pas l'organe. Il ne détecte pas. Je crois qu'aujourd'hui, on pourrait le détecter. C'est quoi? C'est quelle partie?
Les neurologues, enfin, puis même toutes les études qui sont faites actuellement sur le cerveau des animaux, mais aussi de l'homme, on voit très bien les connexions. Enfin, je sais pas,
C'est dans le sous-cortex, toujours.
C'est quoi?
Dans le sous-cortex. On devrait déjà relever l'imagination. Parce que c'est en connexion avec toutes les ordres affectives.
C'est très très lié avec l'imagination, c'est sûr.
Je crois que c'est pas vraiment un organe sensoriel.
Quoi?
Je crois que c'est pas vraiment un organe sensoriel. On peut pas. Mais moi je me demande si c'est une faculté de faculté, une dynamisme de dynamisme.
Oui, dynamisme de
vie. Un organe serait pas. Et ce qui fait.
L'ensemble.
Oui, ce qui fait qu'un organe sensoriel.
La réunion.
Oui.
Lourd. Au sens fondamental.
Non.
Quelque chose de premier.
Mais je crois que c'est ce qui fait.
Oui. Dans la ligne, vous voyez, alors, dans la ligne du toucher.
Mm-hmm.
Parce que le toucher fait déjà une certaine unité. Il y a un toucher pour l'œil. Il y a un toucher pour le toucher. Et tous les sens sont un toucher. Alors, dans la ligne du toucher, on trouve quelque chose de fondamental et d'un à travers le corps. C'est pour ça que les modernes qui rejettent ce point de vue-là veulent doubler le point de vue du toucher, entourant le toucher externe et le toucher interne. C'est pas... Parce que les psychologues mettent un toucher interne. Vous avez mal à l'estomac. Tout ce qui vous fait mal. Hein? C'est un toucher interne.
Puis il y a un toucher passionnel.
Oui.
Pour les psychologues.
Oui, un toucher passionnel. Mais un toucher passionnel, je crois que c'est l'affectivité. Déjà. Pour moi, c'est plus le toucher, au sens. Tandis qu'il me semble que c'est intéressant d'avoir détecté le toucher interne. Parce que le toucher interne me mettrait sur la piste de ce sens, de cet organe, qui ferait une certaine unité, qui serait reliée à tous les autres organes.
Est-ce que c'est pas le corps lui-même qui, avec tous ces systèmes de communication.
Le cerveau serait l'organe de quelle faculté?
Quoi?
Le cerveau. Il y a beaucoup de facultés. Il y a beaucoup de choses. En tout cas,
l'imagination. C'est l'imagination. L'imagination, la mémoire. Puis la réminiscence, tout ça.
Parce que les aires sensorielles en tant que telles.
Quoi?
Les aires.
Oui.
Dévolues à chaque sens sont vraiment au niveau cérébral. Donc elles sont.
Oui! Tous sont réunis au cerveau.
Donc, je crois que ça touche déjà à la représentation.
Voilà.
Oui,
ça touche déjà à la représentation.
Attends, tout en bas, parce que Aristote, dans le dessin dessous, là, il regarde enfin, la difficulté qu'il y a de percevoir au fond deux sensibles propres génériquement différents en même temps. C'est vrai que c'est pas très facile. Parce qu'au fond, on privilégie toujours une sensation par rapport à une autre. Il y a une rivalité, enfin, ce qu'on peut voir au niveau des systèmes
nerveux qui font qu'il y ait des inhibitions réciproques entre les différents
influx
nerveux qui proviennent des organes des sens. Alors on pourrait peut-être étendre l'organe des sens, je veux dire, à l'influx nerveux qui est issu.
C'est là où je me demande. Oui, puisque c'est puissance de puissance. Est-ce que tout cet aspect d'influx nerveux, qu'Aristote n'a pas vu, qu'aujourd'hui on détecte d'une façon beaucoup plus nette,
qui rendrait compte de la sensation interne, puisque...
Exactement, qui rend compte de la sensation interne. Moi je crois que c'est du côté de la sensation interne qu'on doit creuser. Parce que c'est diffus. Il y a quelque chose de diffus qui fait l'unité.
Il disait que justement, c'était justement la voie propre du cerveau, mais il y a une chose, le sens commun et l'imaginaire sont quand même très proches.
C'est pas la même chose. Oui, c'est très très proche, mais c'est pas la même chose.
Ah non,
oui.
Spécifiquement, mais dans l'exercice...
Dans l'exercice, c'est très proche. Dans l'exercice, l'imaginaire est toujours présent, alors. Vous n'avez pas d'exercice pur de la vue, du toucher. Et ça, c'est l'influx nerveux, du reste, qui fait le lien au point de vue de l'exercice. Mais le philosophe fait l'analyse spécifique de chacune de ses connaissances que le psychologue ne fait pas. Puisque le psychologue, du fait même qu'il y a une unité d'influx nerveux dans l'ordre de l'exercice, dira, vous voyez bien, il y a une unité. Ah, non. Parce qu'on peut avoir une analyse spécifique. Or, l'analyse spécifique du sens commun, c'est justement de saisir une unité dans cette diversité. Des rapports. Où il y a là quelque chose de spécial. C'est tout à fait normal qu'on saisisse le caractère spécifique d'un sens avant de détecter l'organe. Surtout quand il s'agit du sens commun, qui est un sens d'un autre sens. Puisque je passe par les autres sensations pour découvrir le sens commun.
Quels seraient les rapports, en fait? Qu'est-ce que serait une dynamique, une dynamisme?
Oui.
Au niveau de la soeur, en tant que tel, qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, au point de vue. Ah, c'est parce que, comme toutes les puissances émanent de l'âme, il n'y a aucune impossibilité de concevoir une puissance plus fondamentale, voyez, qui est en quelque sorte un peu la matrice des autres. Vous voyez ? Et ce soit à partir d'elle que vous voyez l'émanation de la diversité. Et que, puisqu'elle est fondamentale, elle a comme organe aussi quelque chose qui est beaucoup moins spécifique et qui est de l'ordre beaucoup plus, justement, plus d'un dynamisme nerveux très difficile à préciser.
Ce serait une puissance intermédiaire entre la puissance sensitive et la puissance...
Et l'imagination. Ah, l'imagination, c'est net, c'est une autre faculté. Mais elle, l'imagination est elle-même liée à toutes les sensations.
Je voulais dire la puissance qui est liée au sens commun. Donc, d'après ce que vous dites, ce serait une puissance intermédiaire entre la puissance sensitive...
Et l'âme. Et l'âme. C'est sûr. Puisqu'au fond, voyez, c'est ça qui est très difficile. L'analyse des sensations. Regarde le point le plus extrinsèque de l'âme. Les fenêtres de l'âme par rapport à l'extérieur. Par rapport, c'est par les sensations que l'âme, source immanente, s'extériorise. Un petit peu, si vous voulez, transposer l'analyse des diverses déterminations et qualités de l'être. Vous voyez comme la substance, source immanente de toutes les déterminations, la relation, l'éclatement. Et la relation n'affecte pas directement la substance. Elle affecte la substance par l'intermédiaire de la quantité ou d'autres qualités. Or, au niveau vital, les sensations, c'est comme l'éclatement de l'âme par rapport au monde physique. Je suis en relation avec le monde physique par ma vision. Je suis sensation par mon toucher. Alors n'y a-t-il pas quelque chose d'analogue ? C'est qu'elle ne peut provenir de l'âme qui est l'immanence, le jeu, le plus immanent qui soit, qu'il faut passer par un métaxu, un intermédiaire, qui fonde ces diverses facultés, et ce serait le sens commun. Oui. Moi, je prendrai cette analogie au niveau métaphysique, qui est claire. Mais pour votre question, l'éclatement de l'être ne peut pas affecter directement la substance. Les sensations qui me relient aux sensibles propres ne peuvent pas provenir directement de l'âme. C'est trop extrinsèque. L'âme, la substance, c'est la déesse qui demeure. Or, les sensations, c'est toute voile dehors. Je suis curieux par mes sensations. Je veux voir. Je veux sentir. Je veux toucher. Ouais. Alors, n'y a-t-il pas là aussi quelque chose d'intermédiaire qui permet de comprendre le passage de l'immanence de l'âme à l'extériorité de l'âme par les sens externes? Au niveau métaphysique, comme toujours, le point de vue métaphysique est beaucoup plus limpide que le point de vue vital et plus facile à saisir. Le point de vue vital est toujours très difficile à saisir. À quoi se sent l'immanence ? Et cette immanence, vous voyez, on pourrait dire que le sens commun intériorise les sensations externes. Et elle les intériorise en ramenant la diversité à l'unité. Par une harmonie. Alors, à ce moment-là, on comprendrait mieux le rôle du sens commun. Intérioriser l'extériorité des sensations.
Ce que fait le poète.
Quoi ?
Ce que fait le poète.
Ce que fait.
Le poète, il fait ça.
D'une autre manière. Le poète fait ça en ce sens qu'il aime de voir des analogies entre la vision et les sons. Vous voyez, il fait ça. Non, non. Si son poème est vrai, il va se servir du sens commun.
Descartes parle beaucoup du sens commun. Qu'est-ce qu'il entend ?
Alors, c'est tout à fait autre chose. Le sens commun, pour lui, c'est l'intelligence qui saisit le réel. C'est le sens pratique. Le sens commun, c'est le sens pratique. Vous voyez, vous appelez un navet, un navet. Vous appelez un lapin, un lapin. Vous appelez un chat, un chat. C'est le sens commun. Tandis que quand vous commencez à faire des études intellectuelles, vous oubliez que le chat est un chat. Et vous marchez sur sa queue.
Est-ce que tant qu'il ne stoppe pas un peu le sens commun et essayer d'établir l'unité au-delà de l'université des sensations.
Tout à fait, tout à fait. Mais tout à fait, parce que les sensations n'intéressent pas.
C'est ça, donc il met une activité intellectuelle.
Tout de suite, tout de suite. Il télescope. Et Descartes, déjà. Puisque Descartes ne s'intéresse pas aux sensibles propres. Donc, nécessairement, il ne voit plus l'extériorité de l'âme qui va jusqu'aux sensibles, aux sensations propres. Et aux sensibles propres. Vous voyez ? Moi, je crois que ça aide beaucoup à comprendre le lien entre substance et relation, et le lien entre l'âme et les sens. sens externe est le fondement de la relation, le fondement des sensations qui est sensible quand même. C'est curieux, car ça n'est pas fait du tout le lien. Je crois pas, vous l'avez pas vu. Vous n'avez pas vu ce lien que je fais là, cette analogie.
Le fondement est encore une matrice, c'est-à-dire c'est aussi l'aspect ultime de ce
que j'ai. Une matrice au plan vital.
Donc au fond, c'est le principe qui sent, en fait, qui se sert de,
oui,
se sert de puissance spirituelle.
Oui. Un aspect de réflexion sur la sensation, c'est pour ça que je dis une immanence, une intériorité. La sensation qui est essentiellement extérieure, qui me projette vers les réalités, cette sensation, elle demeure vitale et intériorisée par le sens commun.
On s'est dit, je sens que je sens.
Je sens que je sens. C'est sûr. Vous aussi, vous sentez que vous sentez. Je sens que je me brûle.
Mais ça, avant une conscience...
Avant la conscience intellectuelle, au niveau purement sensible.
Est-ce que vous pouvez nous préciser le mot?
Et est-ce que ce n'est pas l'exigence de la connaissance? Une connaissance qui n'aurait pas cette connaissance, vous voyez, je sens que je sens, serait-elle encore connaissance? Et la relation, quand vous la coupez de son fondement, n'est plus de l'être. C'est la même chose pour moi. Je ne sais plus suffisamment ce que Avicenne a dit du sens commun. Je n'ai pas poussé l'enquête. Parce que c'est toujours intéressant, Avicenne. Il faudrait voir ce qu'Avicenne a dit du sens commun. Je ne sais pas, je ne crois pas que j'ai le bouquin ici de Phidianos. Parce que Phidianos était un de mes étudiants de Fribourg, syrien, qui a étudié beaucoup Avicenne, qui a fait sa thèse sur Avicenne. Il enseigne actuellement à Damas. Il est chrétien. Il enseigne à Damas, à la faculté de Damas.
Avicenne disait que le sensible commun est une sorte d'abstraction.
Oui, ça c'est sûr. Tous les sens impliquent une abstraction pour Avicenne. Mais qu'est-ce qu'il dit exactement du sens commun? Vous savez,
au niveau sensible, on regarde, je veux dire, quand on regarde l'imagination, on regarde le sens commun, c'est différentes choses. Est-ce qu'il y a, on peut parler d'une puissance sensible qui regroupe le tout?
Non, ça ne regroupe pas tout, parce que c'est divers.
Il n'y a pas d'unité?
Bah non, parce que la sensible, vous pouvez pas. Quand vous voyez, vous ne touchez pas.
Non, ça c'est vrai.
Quoi? Donc on ne peut pas.
Oui, mais je veux dire, la. Une puissance qui, je veux dire, qui... Est-ce qu'il y a une unité au niveau sensible?
C'est ça, comme il y a une connexion au niveau des vertus. Y a-t-il au niveau...
Une connexion au niveau des...
Oui, et c'est le sensible commun.
De la puissance...
Le sensible commun fait la connexion des sensations.
Des
sensations.
Des sensations, oui. Mais une connexion avec l'imagination...
L'imagination elle-même est synthétique. Pas besoin d'avoir une imagination, parce qu'elle est immanente.
Mais ce lien entre le sens commun et l'imaginaire.
Ah, celui-là, il est très simple. C'est qu'il y a une répercussion de toutes vos sensations sur l'image. Votre imagination
Est-ce qu'on peut dire aussi, est-ce que le sens, c'est le sens commun qui meut l'appétit sensible, c'est-à-dire le passionnel?
Qui meut l'appétit passionnel, c'est-à-dire les
passions. Est-ce qu'on peut faire une analogie? Comme il faut une certaine connaissance
pour
l'appétit volontaire, spirituel, est-ce qu'il faut... est-ce que c'est aussi le...
Ah, c'est toujours la sensation suffisante.
C'est la sensation,
mais surtout l'imaginaire, beaucoup plus d'imaginaire que la sens commun. Oui, parce que quand il s'agit des passions, vous voyez, les passions n'ont pas l'objectivité qu'a le sens commun. Moi, je crois que ce qui est très intéressant dans le sens commun, c'est de pousser l'objectivité jusque dans cette relation des sensations. Moi, je crois que c'est ça qu'Aristote a voulu. Tandis que si vous mettez le sens commun dans l'intelligence, ou le sens commun dans l'imagine, vous, c'est l'aspect subjectif qui l'emporte. Tandis que là, il y a une objectivité, de maintenir l'objectivité jusqu'au bout. Sans tomber dans une connaissance qui serait un reflet. Mais on pousse le plus loin qu'on peut dans l'ordre de la sensation. Ce serait la puissance radicale. Vous avez coefficient, c'est très difficile quand il s'agit d'expliquer l'émanation de l'âme et des puissances. On dit émanation, causalité, c'est très délicat puisque ça émane de l'âme. Alors il y a une sorte de causalité, une sorte de causalité, source, moi je crois. Elle est source. C'est ça qu'il faudrait un peu voir.
Les opérations intellectuelles ont le même objet ou pas?
Ah oui, alors oui, ah oui, vous venez à votre truc.
Oui. Est-ce que quel est l'objet de la raison?
C'est parce que c'est l'être, vous comprenez? L'être qui est saisi selon trois modalités différentes. L'acuité, l'existence et la relation. Oui. Et c'est tout saisi du point de vue de l'être.
Oui, mais on peut dire un peu la même chose pour la sensation, c'est la réalité.
Non, parce que la sensation est toujours singulière. Tandis que l'être est saisi sur la mode abstrait qui permet ça. Oui, c'est l'abstraction qui permet ça, qui fait l'unification. Vous saisissez l'acuité inséparable de l'exister. Et l'exister tel que vous le saisissez est inséparable du devenir. Donc vous avez les trois dimensions. Oui. Et le raisonnement, c'est le devenir. Tandis que dans la sensation, vous n'avez pas ça, parce que vous avez deux dimensions dans la sensation qui se ramènent déjà à l'unité. Mais vous ne pouvez pas avoir une troisième dimension. La troisième dimension, ce serait le sens hyperaginans, oui, qui rattacherait le sensible à l'imaginaire. Mais c'est une troisième dimension extrinsèque. Donc vous ne pouvez pas dire que le devenir, oui, le devenir est d'une certaine manière hyperaginans par rapport à l'être, mais il n'est pas peragnance par rapport aux réalités existantes que je constate, qui toutes impliquent le devenir.
Qu'est-ce qu'on entend exactement par sensible ou par accident? Est-ce que c'est une vue de la raison?
Ben c'est lorsque je vous vois, je vous dis que vous avez telle couleur. C'est vous, relié à vos sensations, relié à vos sensibles. C'est le sujet. Je connais le sujet par les sensibles parce que je vois une masse grise. N'est-ce pas? Voyant cette masse grise, je dis, ah, ça, c'est lui que j'aime. Oui.
Et Et le sensible par accident, est-ce que c'est plus un point de vue intellectuel? Enfin, je veux dire, ce qui reconnaît le sensible par accident?
C'est beaucoup plus imaginaire. Déjà, je me représente le sensible par accident. Et derrière, le tout est dit, oui, l'intelligence. C'est ce qui fait le lien.
C'est pas la figure.
Oui, par la figure, si vous voulez.
Parce que la figure, une base.
Oui, par la figure. Oui.
C'est l'imagination aussi.
Oui. La figura est toujours le lien entre les sensibles communs et l'imagination. C'est le tout que fait l'imagination. Et le sujet, c'est toujours un tout.
Alors pourquoi est-ce qu'on distingue la figura et le sensible par accident?
Mais parce que... Ah, que vous dites?
Pourquoi est-ce qu'on distinguerait la figura et le sensible par accident?
Mais parce que le sensible par accident, ce n'est pas la figura. C'est quelque chose que vous ne saisissez pas directement. Vous n'avez pas la sensation directe du sensible par accident. Il faut l'intervention d'une autre faculté. Tandis que le sensible, percé par soi, on le saisit directement. Pour pas être une faculté. Et le sensible par accident, c'est en fonction d'une autre faculté de connaissance qui vient vous aider.
Quel est l'intérêt de poser le sensible par accident au niveau de la connaissance sensible?
C'est pour montrer l'unité de notre connaissance. Oui. Dans votre expérience, dans toute expérience que vous avez, quand vous voyez, quand je vous vois, bon, je vous vois à travers mes sensations, mais mon intelligence pose une réalité qui est vous, le ceci. Alors, c'est mon intelligence qui découvre ceci. Elle sait l'intelligence qu'elle est seule à saisir le ceci, le ceci. Que ce n'est pas mes sensations. Mes sensations sont incapables de saisir le ceci. Sensible par accident. Vous voyez ? Et c'est pourtant relié au sensible propre, du moins au sensible. Propre et sensible commun.
Quel est le lien entre le sens commun et l'estimatif?
Oui. L'estimatif est déjà pour moi beaucoup plus dans l'ordre pratique. Tant que le sensible commun reste en dehors de la distinction du pratique et du spéculatif. Je suis au niveau de la sensation. Estimatif, c'est toujours par rapport à quelque chose qui me convient. Mais donc, je suis dans l'ordre pratique. Le convenience, qui va servir énormément au point de vue de la prudence.
Est-ce qu'on parle peut-être de l'estimatif par rapport au dressage des animaux?
Oui, 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 tout à fait.
Mais il y a comme une faculté quand même pour les animaux qui est de type.
Oui, mais qui est l'estimatif? C'est la cogitative.
C'est
l'estimatif. C'est pour ça qu'il y a un dressage possible. S'il n'y avait pas l'estimatif chez l'animal, on ne pourrait pas les dresser.
Alors, à ce moment-là, c'est plus simplement au niveau pratique, c'est quand même quelque chose.
C'est le dressage, c'est pratique.
Oui, non, mais c'est pour expliquer quelque chose. Je veux dire,
non, c'est de l'ordre utilitaire. Oui. Mais c'est mon bien. Quand je dresse un chien, c'est quand même pratique, c'est pas pour la bonté du chien. Le chien se porte mieux s'il n'est pas dressé que s'il est dressé. Quelquefois, il se porte mieux quand il est dressé, s'il a un bon maître.
Et c'est ce qui veut dire que pour
nous... Il est plus intelligent.
On n'aurait pas une puissance estimative au niveau sensible.
Ah non, 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 non. Parce que le sens ne peut pas. Le sensible comme tel n'est pas relatif, vous voyez, à un sujet. C'est pérégrinance.
Est-ce qu'on peut parler de conscience, de sens judicatif, ou proprement au niveau du sens?
Conscience sensible. Vous avez conscience quand même.
Mais c'est à l'extérieur au sens.
Bah, dirons.
La douleur, par exemple.
Quoi?
La douleur.
Oui, mais la douleur, c'est déjà affectif.
Quelque chose quand même d'objectif.
tous objectifs, oui, mais c'est affectif. L'affectivité a son objectivité. L'affectivité a une objectivité subjective. Quand vous dites je souffre, je veux pas dire, mais c'est purement subjectif. C'est subjectif, mais c'est objectif aussi.
Oui, non, mais je veux dire, là, si je prends très physiquement, quand il y a des. On peut avoir une certaine conscience, j'ai une rage dedans.
Oui, mais ça, c'est la conscience affective.
Il y a une conscience sensible.
Quand il y a une conscience sensible, non affective, c'est ça qu'on cherche. Et c'est cette conscience-là. Toucher. Il faut passer d'un toucher à l'autre. Du chaud au froid. Vous voyez ? Vous touchez quelque chose. Et quand vous touchez quelque chose, vous sentez bien. Il y a une conscience sensible au niveau du sensible. Je crois que c'est pour ça qu'il pose ça, c'est de pouvoir aller jusqu'au bout de la sensation et d'objectivité de la sensation. Vous aviez des questions à poser là ?
Pas mon organe qui fait comme une synthèse.
Oui, parce que je vois comme vous. C'est comme la constatation d'un autre. Vous avez vous-même conscience que votre vision est dépendante de la réalité qui est présente à vous. Cette réalité, vous pouvez l'enlever. Vous regardez ce pot de fleurs. Je l'enlève. De le voir.
Non. Est-ce que c'est la même couleur que vous voyez que moi ?
Quoi ?
Est-ce que c'est la même couleur que vous voyez ?
Ben, c'est après, mais même avant. Vous seriez seul, je l'enlève le vase, vous ne diriez plus là. Vous pouvez pas. Vous pouvez vous représenter la couleur de ces feuilles, même quand elles disparaissent, mais vous ne les sentez plus. Et vous le dites vous-même, je me les représente, mais je ne les sens plus. Sensation à elle-même son critère de vérité. Et ce critère de vérité, je crois que le sens commun, là, m'aide beaucoup à le comprendre.
Distinguer l'imagination qui provient du sensible propre
et l'imagination qui proviennent de la mouvement du sensible commun. Mais pour préciser, l'imagination en tant que mouvement du sensible par accident, qu'est-ce qu'on peut dire?
Oui, parce que le sensible est connu directement. Le sensible par évidence implique une composition extrinsèque au sensible. Et donc, il n'est pas connu par la sensation. Est connu par autre chose que la sensation. Alors souvent, il est connu par l'intelligence. C'est le ceci. Il me dirait que ceci, peu importe qu'il soit de telle ou telle couleur, de telle. Mais dès que vous regardez le ceci pour lui-même, dites peu importe qu'il soit. Tandis que votre sensation, c'est pas du tout peu importe. Le rouge, c'est le rouge. Donc vous avez vous-même.